L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
L'atmosphère de cette matinée d'été est pesante. Nous sommes dans les couloirs du Palais Royal de Belgique. On pourrait entendre une mouche voler. Seul résonne sur le parquet le bruit de semelles au pas pressé qui se dirige vers le bureau du roi Léopold III. De souverain, ce dernier n'a plus que le titre honorifique. C'est son fils Baudouin, prince royal, qui commande depuis un an. En tête de la délégation qui se dirige vers son père ce matin, Baudouin serre une chemise avec des documents sous le bras. Il vient réclamer le trône. Assis seul derrière son bureau, Léopold III sent le couperet de la guillotine qui va tomber. Personne ne parle. Le roi a les mains jointes sous le menton, un uniforme impeccable sur le dos. La fenêtre est ouverte. Il perçoit au loin le chant des oiseaux et les rires des enfants. Comment a-t-il pu en arriver là? Par quelle diablerie la couronne, de manière officielle, va-t-elle changer de tête ce matin? Demain, son fils sera couronné. Demain, il ne sera plus rien qu'un poids mort pour l'ensemble d'un système politique et d'un pays dont l'opinion se déchire depuis des années sur son cas. Ah, voilà qu'on frappe à la porte du bureau. D'une formule laconique, le souverain fait entrer la délégation de vautours venue lui arracher ses attributs des mains. Sa plume est déjà prête. Baudouin dépose sèchement la farde de documents sur le bureau. Derrière ses épaisses montures, la lumière se reflète sur les verres qui cachent son regard. Un paraphe à chaque page, une signature à la fin et tout sera terminé. Il n'y a plus rien à espérer de personne. Les mines autour de Léopold III sont graves, loin d'être compatissantes. Elle est venue, l'heure de sa mise à mort. Nous sommes le 16 juillet 1951 et le soleil brille sur Bruxelles. Il est 11h, le pays s'apprête à changer de souverain et c'est leur H de mon histoire. Une heure plus tôt, Léopold III s'était installé derrière son bureau en attendant le fatidique moment. Le couronnement de Baudouin aura lieu demain. Tout ce qu'il considère comme une mascarade a donc été longuement organisé et préparé. Ce matin n'est que le coup de grâce après plusieurs années de conflits et de tensions. Prisonnier des nazis, retenu par les Américains, tensé par sa propre population, il est devenu sujet de méfiance et de quolibets qu'il juge inacceptables. La situation depuis l'année dernière est devenue intenable. Se mettre en retrait est apparu comme une évidence, contraint et forcé par les parlementaires de céder à Baudouin la place qui lui revient de droit. La gorge serrée, les yeux dans le vague, le roi profite de ce moment solitaire. C'est assez habituel, depuis quelque temps, pour tenter une énième introspection. Son esprit, bousculé et torturé par les événements, essaie de comprendre les erreurs qui ont été commises. Comment Flamands et Wallons ont-ils pu se déchirer avec une telle force au sujet de son retour en 1945? Enfin, lui, à la différence de ses ministres de l'époque, n'avait pas été un pleutre. Il était resté à Bruxelles pour assumer sa position de leader, pour protéger la Belgique et les intérêts de tout le pays. Ce sont 17 ans, 4 mois et 23 jours de règne qui s'achèvent ainsi. Le gâchis est monumental. Et la tâche d'encre, large et pérenne, risque bien de le suivre jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire de la Belgique aussi saura se souvenir des années qui viennent de s'écouler. C'est un euphémisme que de le dire. Léopold III, décidément très mal à l'aise, se lève précipitamment de son siège et se dirige vers la fenêtre qu'il ouvre. Le vent rafraîchissant qui pénètre dans la pièce lui donne l'occasion de respirer profondément. Quoi qu'il puisse dorénavant advenir, les dés sont jetés. La cérémonie du sacre du lendemain est organisée et tout est prêt pour l'avènement au pouvoir de son fils. La signature de ces maudits papiers n'est qu'une énième formalité. Alors qu'il contemple le parc, qui vit sous les fenêtres du palais, le roi est victime de ces flashbacks qui, bien souvent, envahissent les esprits en mal d'oxygène et de quiétude. C'est comme si une autre réalité venait à s'ouvrir devant lui. Un autre espace-temps, celui d'une époque pourtant révolue, mais qui continue de l'assaillir en se superposant au moment présent. D'un côté, il entend les enfants qui crient et s'amusent entre les arbres un peu plus loin. Et puis de l'autre, il revit sa rencontre avec un homme dont la seule évocation suffit encore à terrifier le monde entier. Adolf Hitler. Ces moments hors du temps, entre souvenirs et réalité, représentent un permanent conflit intérieur. C'est en réalité ce qu'on appelle, dans le jargon médical, une forme de décompensation. Le roi est tiraillé encore entre ses démons et la réalité de ce matin qu'il appelle pourtant à vivre un moment des plus importants de sa fin de règne. Cette fois, ce seront les mauvais esprits qui vont emporter. Léopold III est happé 11 ans plus tôt. Au cœur des Alpes bavaroises, dans la tanière du Loup, Berchtesgaden. Nous sommes alors le 19 novembre 1940. Une poignée de main avec le Führer. Et Léopold vient de se tirer une magnifique balle dans le pied. Vêtu d'une longue veste de costume et d'un pull sur une chemise avec cravate, le souverain a réclamé l'entrevue qui eut lieu ce jour-là. Il rencontre l'homme qui fait trembler l'Europe depuis quelques semaines. En un seul coup de butoir, Hitler vient de triompher de la France et du corps expéditionnaire britannique, tout comme de la Belgique, qui résista néanmoins de manière héroïque pendant la campagne dite des 18 jours. Léopold III, se considérant et étant de fait prisonnier de guerre dans son propre palais, fut mis en incapacité de régner par le gouvernement. Une clause de la Constitution permit cette manœuvre. Les ministres du pays ont été clairs depuis leur refuge établi à Londres. Ils vont continuer le combat aux côtés des alliés. Avec les moyens du bord, certes, mais tout de même. L'Allemagne nazie est l'ennemi à abattre. Alors, pourquoi le roi se rend-il chez le fauve qu'on cherche à dompter? Ses souvenirs à lui aussi sont brouillés. Il ne se rappelle que de bribes de cette rencontre qui, de toute manière, n'a jamais été consignée sur un quelconque compte-rendu officiel. Les raisons de cette visite sont nébuleuses. Oh, pas pour le roi, bien entendu. Sa version vise à montrer qu'il a cherché à défendre l'indépendance de la Belgique dans le conflit, à protéger les institutions face aux affres de la guerre. Oui, oui, mais voilà. Léopold ne croit plus en la victoire des Alliés. Il préfère donc se couper de son gouvernement et de ses injonctions. Discrètement et quitte à se rendre symboliquement en Allemagne, il avance ses pions tout seul. Tout le temps du conflit, personne n'est venu lui chercher des poux sur le sujet. Il n'était que très peu à avoir eu vent de sa visite pour le moins incongrue chez l'ennemi. Et ceux qui le savaient préféraient se taire plutôt que de dégoupiller la grenade qu'il tenait entre leurs mains. Ce n'est qu'à la libération, alors que le roi n'est pas encore de retour en Belgique, que la bombe à retardement lui explose au visage. Il n'en faut alors pas plus pour alimenter un brasier qui échappait déjà à son contrôle. Soudain, on frappe à la porte de son bureau. Le roi est ramené à la réalité par l'intrusion de son secrétaire particulier qui vient lui annoncer l'arrivée prochaine de son fils et des ministres du gouvernement. Hagard, encore un peu secoué par ses allées et venues mentales, Léopold III se saisit des articles de presse qu'on lui tend. Il est encore à la une de nombreux médias. Tiens, comme c'est étonnant. Longtemps, il a réagi, furibard, aux mots parfois mensongers de cette presse qui s'est servie de la division du pays pour s'acharner sur lui. Mais ce matin, il n'en a plus la force. D'un haussement des sourcils et d'un mouvement de main, il repousse un peu plus loin ce qu'il considère être des torchons. Et puis, il se lève s'appuie contre cette fenêtre qui laisse passer les bruits du dehors. La vie continue, quoi qu'il arrive. Il va avoir un nouveau rôle à prendre, celui de conseiller privilégié pour un fils qui monte sur le trône sans aucune expérience. Baudouin règne de fait depuis un an. Mais de prince royal à souverain, il y a une marche très importante à franchir. Et quelque part, rester près du pouvoir, c'est l'exercer encore un peu, non? Mais voilà que le temps des rêveries est terminé. La délégation arrive. Léopold III entend les semelles craquer sur le parquet. Il y a un élément sur lequel le roi Léopold III se trompe. Non, l'entrevue avec Hitler ne fut pas la première étape de sa chute. Elle n'en est que la deuxième. Tous ses soucis ont commencé quelques mois avant le 19 novembre 1940. Le 25 mai, en début de soirée, pour être précis. Et c'est à cette date que commence notre histoire. Nous sommes au château de Winnendal, en Flandre. Cette demeure magnifique, qui se dresse dans la campagne environnante comme un phare face aux difficultés de l'histoire et le refuge du souverain depuis quelques jours. La situation militaire est, disons, compliquée, pour ne pas dire désespérée. C'est du moins son avis personnel. On ne peut cependant pas reprocher à l'armée belge d'avoir abandonné, bien au contraire. L'invasion nazie du 10 mai et la violation de la neutralité du pays auraient pu être le premier élément d'une chute vertigineuse. Durant la première matinée, les combats furent parmi les plus difficiles de l'histoire du pays. Mais depuis, les soldats se sont revigorés. La bataille de la Lys a offert au monde la possibilité de contempler la ténacité et le courage d'une armée qui refuse d'abandonner si facilement. Les affrontements font encore rage d'ailleurs, alors que se pressent au bas des marches du château les principaux ministres du gouvernement. Une entrevue avec le roi est plus que nécessaire. Transpirant dans son costume noir, le premier ministre, Hubert Pierlot, est venu pour convaincre le roi de quitter la place, d'embarquer pour l'Angleterre avec le gouvernement et ainsi continuer de mener le combat en sûreté, loin de porter les griffes d'Hitler et de ses sbires. Il est persuadé, le sévère Pierlot, de pouvoir compter sur le soutien de la couronne au moment où cette décision s'impose. Il ne va pas être déçu. Il est reçu, accompagné par Spaak, tutélaire des affaires étrangères, ainsi que Van der Poorten, ministre de l'Intérieur, et par Denis, à la Défense. Tous s'accordent sur la même chose. Léopold doit partir pour Londres sur le champ. Mais dès les premiers échanges de regards, les chevronnés politiciens comprennent que les discussions à mener pour convaincre le roi vont être rudes. Toujours le nez tourné vers l'extérieur, contemplant le parc alentour, le roi salue ses ministres avec la gravité que peut exiger pareille situation. Il demande un état des lieux. Denis, ministre de la Défense, tente tant bien que mal de maquiller la vérité, mais personne dans cette pièce n'est dupe. Ce n'est qu'une question de temps avant que la digue ne cède et que l'Allemagne nazie s'empare des organes vitaux du pays. « Il faut partir, sire !» en profite Pierlot. « Pour aller où ?» répond laconiquement le souverain, sans détourner le regard. « à Londres et continuer le combat depuis le sol britannique !» affirme Pierlot. Cette fois, pas de réponse. Léopold III est loin d'être idiot. Il a déjà réfléchi longtemps aux différentes options. En guise de réponse, il jette un pavé dans la mare. « Je ne partirai pas. Je reste. Vous partez. » Ces quelques mots résonnent dans le château comme un coup de feu venu de nulle part. Pierlot s'agrippe à un dossier de fauteuil pour encaisser le choc. Comment ça? Le roi refuse de partir? Quelle est encore cette élucubration? Rapidement, le ton monte entre les hommes présents lors de ce qu'on appellera bientôt le drame de Winnendal. Les ministres ne peuvent se résoudre à accepter une telle issue. Pourtant le roi tient bon. Non, il ne bougera pas du territoire national, c'est hors de question. Lorsqu'on lui demande « pourquoi ?», il répond que rester pour protéger la population et ses soldats est la meilleure chose qu'il puisse faire. En effet, au contraire de l'Angleterre qui a préparé son rembarquement à Dunkerque, personne ici n'a pensé à un plan pour protéger l'armée du pays. Dans ces conditions, Spaak a beau lui dire que les nazis refuseront de négocier, tout ce qu'il peut dire entre par la royale oreille gauche pour ressortir du côté droit. Sa décision est prise et rien ne pourra le faire changer d'avis. Déjà très tendu, l'atmosphère bascule dans un climat digne des thrillers les plus intenses du cinéma hollywoodien. Le roi martèle qu'il n'acceptera pas que l'Allemagne puisse tenter de séparer la nation en deux morceaux comme elle a pu le faire en 14-18. Il veut s'ériger en obstacle. S'il ne peut pas être actif sur la question, qu'il en soit ainsi, mais au moins, sa présence sera dissuasive. Les ministres, à 40 pas du souverain, près de la porte du grand salon, n'en reviennent pas. Ils se regardent, totalement estomaqués. Il n'y a rien à faire d'autre, hélas, que partir. Les adieux sont glacés, et c'est rien de le dire, vous l'imaginez. Rapidement, le gouvernement quitte le territoire pour rejoindre l'Angleterre. Le roi, lui, va rester dans cet écrin de verdure dans lequel il prendra connaissance des conditions du Führer au sujet de la reddition du pays. C'est alors la porte ouverte à toutes les supputations. Et si Léopold III était resté en Belgique pour collaborer avec l'ennemi, des rumeurs aux suspicions, il n'y a qu'un pas, que beaucoup vont être tentés de franchir. Le drame de Wynendael est le prélude de cette rencontre dans les Alpes entre Hitler et le roi Léopold III. Les mystères qui entourent cette entrevue sont nombreux et ouvrent la voie à toutes les interprétations. Pas de compte-rendu officiel. Des sourires de façade sur les quelques photographies qui sont prises. Mais que s'est-il réellement passé ce 19 novembre 1940 ? Voici quelques éléments de réponse. Le roi a cessé d'exercer tout pouvoir pour éviter justement toute ambiguïté sur ses relations avec l'occupant. Mais il veut prendre sa part, s'assurer de l'indépendance du pays et c'est certainement dans cette optique qu'il demande audience au bourreau de l'Europe. La rencontre aurait dû avoir lieu à Ivoire à la fin du mois d'octobre. Mais finalement, c'est en Allemagne que les deux hommes vont être amenés à discuter. Schmitt, interprète officiel d'Hitler, écrira ces quelques mots au sujet du souverain. Il m'a donné l'impression d'un grand élève auquel ses parents imposent une désagréable leçon supplémentaire dont il ne comprend nullement la nécessité. Il me parut monter avec une certaine répugnance les célèbres escaliers qu'avec plus d'espoir et d'un pas plus souple non seulement le roi Boris, mais aussi Lloyd George, chamberlain et le duc de Windsor avaient gravi avant lui. Ambiance. Quoi qu'il en soit, il est exclu d'imaginer que l'entrevue se soit déroulée dans la bonne humeur et avec échange d'amabilité. Non. Léopold III est en retrait, méfiant face à cet homme qui tient le destin de son pays entre ses mains. Et rapidement, le ton, là aussi, va monter. Léopold ne va pas se dérober face aux injonctions d'Hitler. Là où ils se rejoignent, c'est sur la fin du conflit. Le roi est persuadé que l'Allemagne va remporter la guerre et s'enquiert donc de demander quel sera le destin de la Belgique, réclamant la possibilité d'avoir un État indépendant. Ce qui irrite particulièrement le dictateur, c'est l'aplomb de ce souverain qui refuse de collaborer à tout prix avec les nazis. Ce à quoi Hitler finira par dire « À l'avenir, la Belgique devrait se régler politiquement et militairement sur l'Allemagne. » Assez clair pour imposer le silence au roi, non ? Eh bien, détrompez-vous. Ce dernier va ruer dans les brancards, s'exclamant en haussant la voix. « Dois-je comprendre ?» que l'indépendance politique de la Belgique sera garantie en contrepartie d'accords politiques et militaires entre elle et le Reich ? L'écume sous la moustache, Hitler ponctue l'entretien d'un thé dans une ambiance glaciale, tentant une dernière fois de caresser Léopold dans le sens du poil. Mais rien n'y fait. Ils campent tous deux sur leur position et ne seront plus jamais amenés à se rencontrer de nouveau. Hitler, d'ailleurs, gardera tout le reste du conflit une rancœur tenace à l'égard de celui qui a osé lui tenir tête avec les moyens du bord. Mais Donc, allez-vous me dire, comment peut-on reprocher au roi son comportement lors de cette entrevue? S'il s'est dressé de cette manière contre l'envahisseur? Eh bien, disons que ce n'est pas si simple que ça. Le roi s'est tout de même coupé de son gouvernement en refusant de le suivre en Angleterre. Et son rôle était assurément celui de rester en contact avec la politique de la nation. Ensuite, en 1945, la médiatisation de la rencontre entre Hitler et le roi n'est qu'une allumette dans un brasier immense. Ce qu'on appelle la « question royale » bat déjà son plein. Les alliés l'accusent de les avoir abandonnés dans la lutte. C'est jamais bon de passer pour celui qui se dérobe. Pire encore, Léopold va pendant la guerre être l'auteur de très nombreuses maladresses. Veuf depuis la mort de la reine Astrid, il va se remarier en septembre 1941, en pleine période d'occupation, à une roturière bourgeoise dans un faste qui interpelle toute la population. Vous voulez plus de bizarreries ? Le voyage de noces du couple a lieu en Allemagne et en Autriche, pays de l'oppresseur. La fin de la guerre n'est pas plus reluisante pour Léopold III et sa famille, qui seront conduits en tant que prisonniers de guerre sur le territoire du Reich en juin 1944 à la suite du débarquement de Normandie. Ce qui explique son absence sur le territoire national à la fin du conflit et la question que pose son éventuel retour à la tête du système politique. De nombreux opposants se dressent contre l'éventualité d'un comeback de celui dont on se méfie. Que doit-on déduire de ses agissements et de sa prétendue neutralité? Pour ses détracteurs, cela cache quelque chose. Est-ce pour autant le cas? Rien n'est moins sûr. Mais voilà que bien malgré lui, le roi est pris dans un tourbillon dont il va devoir s'extraire, sous peine de voir la couronne lui passer sous le nez.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H s'intéresse à la fin de règne de Léopold III, roi des Belges de 1934 à 1951. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses prises de position aux antipodes de celles souhaitées par les alliés et par son propre gouvernement vont lui poser de sérieux problèmes alors que la Seconde Guerre mondiale se termine. Celui qui a rencontré Hitler et tenté de défendre une certaine indépendance de la Belgique risque de payer au prix fort ses maladresses. En particulier, son remariage en 1941 durant l'occupation ou son voyage de noces en Allemagne et en Autriche. Si 1945 est pour l'Europe occidentale le signe de la fin des malheurs, pour Léopold III, il n'en est rien. Le terreau sur lequel grandit l'opposition est indéniablement en passe de porter un coup fatal au souverain et pire, peut-être, à la monarchie tout entière. Le temps d'agir est venu, c'est indispensable. Nous sommes le 15 juin 1945, au creux des montagnes de Suisse. Le roi Léopold III et sa famille, depuis le 7 mai, ont enfin été libérés du joug nazi. Les voilà, alors que la victoire est maintenant officielle, en position d'attente pour rentrer au pays. Et aujourd'hui est un grand jour. Le roi a fait officiellement part à son gouvernement, qui ne s'est d'ailleurs pas pressé au portillon jusqu'à maintenant pour l'accueillir, de son intention de revenir et de reprendre ses prérogatives. Son frère, le prince Charles, est régent depuis quelques mois et cela doit cesser. Le souverain, c'est lui. Mais alors qu'il s'attendait à une réponse des plus positives, ce soir, le roi fait grise mine. Seul, dans son bureau, il cherche des réponses à ses questions. Pire qu'un accueil froid, on lui a refusé l'accès à son propre pays, sous prétexte que cela allait déclencher des troubles dans la population. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Léopold III, pourtant, doit ouvrir les yeux. Il a terminé la guerre comme il l'avait commencé. Mal ! Il s'est décidé au cœur de l'année 1944 à écrire un testament politique. Au menu, justification de ses décisions, parfois bancales. Il met les pieds dans le plat en évoquant ouvertement le fait que la communauté flamande doit être le sujet de réflexion pour éviter des débordements à l'avenir entre eux et les francophones. Et surtout, il réclame que ceux qui ont tenu des propos le concernant, lui ou sa famille, fassent amende honorable. Vous imaginez les réactions d'une partie de la population et du gouvernement à cet écrit. D'autant plus que le roi ne consent toujours pas à se rapprocher de ses ministres. Il évoque la neutralité du pays pour ne pas aller dans le même sens que toutes les familles royales d'Europe opposées aux nazis qui, elles, ont bien souvent suivi leur gouvernement en exil. Ces ministres ont pris des engagements internationaux depuis Londres. Très bien. Mais ils refusent de les reconnaître. La Belgique est neutre, point à la ligne et fin d'histoire. Oui. Et mais voilà. En attendant, cette posture a attisé les braises de la tension. Le pays est totalement divisé en deux le concernant. Le prince Charles fait consensus, lui. Et Baudouin est jeune, certes, mais il commence tout doucement à frapper à la porte. Alors, pourquoi pas envisager la solution que Léopold III ne rentre pas, tout simplement. La libération ouvre la porte à toutes les éventualités le concernant, y compris celles qui voudraient qu'il ne remette plus un pied près du trône. Autant vous dire que la main du souverain sur son bureau est particulièrement crispé. Il est dans une totale impasse. Comment se sortir de cette nasse politique et sociale qui l'entoure? Son seul souhait est de pouvoir rentrer et régner à nouveau. Après tout, il a pour lui la légitimité. Reste à trouver le moyen. N'en déplaise à Léopold III, la crise qui couve va durer longtemps. Très longtemps même. Et les clivages vont se durcir. Pourtant, il va bien falloir trouver une solution. Et c'est lui qui va la proposer à la fin de la décennie 40. Oui. Le roi et sa famille vont rester des années durant en Suisse, à taper du pied sur le sol en espérant une issue. Pendant 5 ans, en tout et pour tout, le régent, les ministres, les parlementaires, tous vont faire des va-et-vient dans la résidence royale pour tenter de démêler ce qui peut encore l'être. Les tensions à son sujet sont tout autant linguistiques que politiques, ou même économiques. Alors Léopold va poser son courage, pour ne pas dire autre chose, sur la table. Le pays est divisé ? Très bien. On va donc organiser une consultation de la population. Un référendum consultatif. Et si ses soutiens sont moins de 55%, alors il s'effacera. Le Premier ministre dit banco. Le scrutin est organisé le 12 mars 1950, alors que des élections l'année précédente ont été remportées par les socio-chrétiens, favorables au retour du roi. Mais Léopold III peut s'attendre à avoir chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. La population est en effet très divisée. De son côté, il peut espérer rallier la communauté flamande et certainement une bonne partie de Bruxelles, les catholiques et les ruraux. Contre lui, le peuple de gauche, les libéraux, les francophones et les citadins. Les ouvriers, eux, risquent bien d'être la variable d'ajustement. Alors, Léopold III va-t-il pouvoir remonter sur son trône? Que la fête commence et résultat dans les urnes.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H porte sur la fin de règne la plus agitée de l'histoire de la monarchie constitutionnelle de Belgique, celle de Léopold III. Le souverain suspecté d'avoir trop facilement accepté les conditions de l'occupant nazi. Le témoin passif qui est allé à l'encontre de son gouvernement, qui a rencontré Hitler et s'est remarié en grande pompe en 1941. Il a même été en Allemagne et en Autriche pour son voyage de noces. La Belgique, au bout du suspense, doit voter ou non pour accepter son retour. Est-il acquis ? Oh ben c'est loin d'être garanti. Le vote lui-même va provoquer des divisions durables et replonger le pays dans la crise. Nous sommes le 12 mars 1950. Les résultats tombent en soirée et le roi est finalement autorisé à rentrer au pays. Les votants ont été nombreux à se déplacer. Et se sont décidés à 58%, à lui accorder leur confiance. Banco pour le souverain, vous allez me dire. La barre symbolique des 55% est franchie. Plus d'obstacles devant sa route. Ce n'est bien entendu pas si simple. La majorité n'est en effet pas si terrible, c'est un euphémisme. Et lorsque les équipes royales décortiquent la composition des votes, le tableau dégage à l'évidence une odeur de poudre noire. La division communautaire est immense, bien plus que prévu. La Flandre, bien entendu, a répondu à l'appel de manière impressionnante. On a frôlé les 72%. Mais alors pour le reste? Pour le reste, c'est la dégringolade. La Wallonie se dresse en rempart contre le retour du roi, avec seulement 42% des votes positifs. C'est à peine mieux à Bruxelles, avec 48%. Loin des espérances du souverain, comme vous pouvez l'imaginer. Va-t-il en prendre la mesure et accepter les conséquences? Eh bien, pas du tout. Il a atteint le chiffre attendu, il reste. Point barre, fin de la discussion. Il ne manque plus qu'une petite étincelle pour que tout explose à sa figure. Et elle va arriver, bien plus tôt que prévu. Le 22 juillet 1950, au lendemain de la fête nationale, le souverain met pied à terre en Belgique pour son retour, comme une rockstar, ou presque. Il sera accueilli froidement. La veille, en plein moment de liesse, une première bombe a explosé à Bossu. Heureusement, sans faire de victimes. Deux jours plus tard, les francophones se soulèvent et des émeutes éclatent un peu partout dans le sud du pays. Les milieux de l'industrie sont les plus organisés, les plus violents aussi. Parfaitement orchestrés par les partis de gauche, des moins aux plus radicaux, c'est la révolution qui se prépare. Ne craignons pas les mots. Les violences qui ont lieu sont particulièrement vives. Des centaines de bombes artisanales sont fabriquées et posées sur les voies de chemin de fer ou dans les centrales. L'instabilité est à son paroxysme, alors même que le mois précédent, le parti en place a accumulé assez de suffrages lors des élections législatives pour remporter les deux chambres, et ce, avec une majorité absolue dans les deux cas. Léopold III siège donc sur un pays qui a tout d'un bâton de dynamite dont on aurait allumé la mèche. Le Parti socialiste appelle à la grève générale. Elle est mise en place dès le 26 juillet. Les manifestants débordent de rancune et de colère. Au nord du pays, on regarde les événements avec une exaspération qui n'est pas prête de disparaître. Et puis, soudain, jaillit l'étincelle qui manquait pour faire exploser l'ensemble. Grâce Berleur. Nous sommes le 30 juillet, en province de Liège. Une manifestation plus violente que les autres dégénère. Face aux manifestants, la gendarmerie, serrée en rang d'oignon, a reçu l'ordre clair de ne pas bouger. Les manifestants doivent être contenus, coûte que coûte. Les deux camps, depuis des jours et des jours, sont sur les dents. Paroxysme de l'horreur de cette situation totalement lunaire, les gendarmes finissent par tirer à balles réelles dans la foule. Trois morts sur place. Un autre mourra plus tard de ses blessures. Le bilan aurait pu être beaucoup plus important. Pour Léopold, c'est le début de l'agonie politique. La colère des manifestants se transforme en une haine aveugle. Dans la province de Liège en particulier, on dépave les rues et, de plus en plus, les foules hurlent vengeance. On décide de marcher sur Bruxelles et si le palais n'écoute pas, tant pis, on fera sécession. La révolution est aux portes de ce pays pourtant connu pour sa stabilité institutionnelle. La pression est immense. Dans la capitale, les ministres les plus importants du gouvernement, menés par Jean du Vieux-Art, se rendent à Laeken. Il faut faire quelque chose. Il faut agir vite. Bientôt, les sans-culottes liégeois seront sous les fenêtres du roi et des politiques. C'est qu'une question de temps. C'est à ce stade que Léopold III se résigne. Il accepte, dès le 31 juillet, de transmettre ses pouvoirs et ses prérogatives à son fils aîné, Baudouin. Il n'est alors que prince royal, le jeune qui vient d'entrer dans sa vingtaine, et son père espère bien revenir une fois que la situation sera tassée. Dans un an, tout au plus, dit-on dans son cercle de partisans. Il n'en sera rien. Le consensus qui se crée autour de son fils est tel que Léopold est finalement poussé à l'abdication. Elle sera effective, comme nous l'avons vu, le 16 juillet 1951. Le lendemain, Baudouin deviendra roi des Belges. Les premières années du règne de Baudouin donnent l'occasion à Léopold de devenir le plus proche conseiller de son garçon. La situation va se maintenir jusqu'à l'arrivée de la reine Fabiola. Ce sera alors l'occasion de demander à l'ancien souverain, devenu un peu encombrant, de déménager. Ce ne sera pas Baudouin qui le lui demandera, ni sa femme d'ailleurs, mais bien les hommes politiques en poste. Cela témoigne bien, s'il le fallait encore, du ressentiment de la classe politique à l'égard de Léopold III. Le calcul est simple. Si l'ancien monarque est relégué loin de son fils qui règne, il n'aura plus la même influence sur lui. Banco, le calcul est payant puisqu'il est installé à compter de 1959 au château d'Argenteuil, en bordure de la forêt de Soigne, le rôle et la présence politique de ce père ayant abdiqué s'estompent, presque comme par magie. Baudouin s'affirme et prend seul en main les rênes qui lui reviennent maintenant de droit. C'est ainsi que Léopold passera sa retraite éloigné de la cour et des affaires de la capitale. Il vivra ainsi plus de 20 ans. Au début des années 1980, sa santé déclinant, ses équipes de médecins décident de l'opérer pour des soucis chroniques au niveau des coronaires. Ce sera son dernier baroud d'honneur. L'intervention se déroule mal et le roi décède de complications dans la nuit du 24 au 25 septembre 1983. Bien qu'il ait pris des distances politiques avec lui, Baudouin sera particulièrement affecté par la disparition de son père. Il est aussi l'homme qui l'a formé. Comme tous les souverains et les reines de Belgique, Léopold III est inhumé au sein de la crypte royale de Laeken. Il repose tout près de ses deux épouses, sa deuxième femme étant décédée ensuite, à l'aube du nouveau millénaire, en 2002. La crypte royale est un lieu particulièrement chargé d'histoire, ouvert quelques jours par an seulement et au sein de laquelle se trouvent la plupart des membres de la famille royale du pays. La chute de Léopold III du trône de Belgique résulte au départ d'une petite boule de neige qui s'est transformée en avalanche. Des accords politiques avec ses ministres sur le fait de quitter ou de rester en Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale. Rencontre avec Hitler, remariage polémique, division populaire, attentats et violences répétées entre les différentes communautés linguistiques et régions du pays. En bref, la situation était devenue tout simplement intenable pour Léopold III. Sa mise en retrait, puis son abdication en 1951, permettent au pays de retrouver une unité sous l'égide de Baudouin. C'est pas un hasard. Si ce dernier deviendra celui qui est encore aujourd'hui l'un des souverains, si ce n'est le souverain, le plus populaire ayant régné sur notre pays. La fin de vie de Léopold III, elle, est à l'image de sa fin de règne, en retrait, tel un vieux dossier gênant qu'on rangerait au fond d'un placard. Oh, c'est triste, certes, mais l'ambiguïté de son comportement lors d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité est tout de même assez interpellante. Et à ce titre, la couronne de Belgique n'a pas voulu entacher le régime de polémiques pour le moins explosives. On peut aisément le comprendre. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation extraite du journal de guerre de l'avocat Paul Streuil. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ce juriste, proche des sphères du pouvoir, est informé du voyage de Léopold III dans les Alpes bavaroises pour y rencontrer Hitler. Sa réaction, en date du 21 novembre 1940, est restée dans les annales et témoigne de l'extrême incompréhension ressentie par la majorité des Belges à la découverte de cet événement. Il écrit sobrement ceci, mal dormi comme sans doute la plupart de ceux qui sont au courant du voyage du roi. Assurément, Léopold III est la preuve absolue que de mauvais choix qui paraissent pourtant isolés peuvent provoquer de terribles conséquences bien plus larges et bien plus profondes que ce qui pouvait être envisagé. C'est ce que certains appellent avec malice l'effet papillon. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.